une très bonne question pour vous. Est-ce que l'homme progresse vers un état supérieur? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui étonnera plusieurs de nos auditeurs aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Une fois de plus aujourd'hui, les Saintes Écritures vont nous donner l'heure juste en répondant à nos questions. C'est tellement merveilleux de croire que la Bible, c'est la parole de Dieu, qu'elle ne nous induira pas en erreur. Alors voici nos questions pour aujourd'hui. Est-ce que Dieu nous invite à l'écouter? Est-ce que les riches et les pauvres sont égaux aux yeux de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui sont assez riches pour payer leur entrée au ciel? Est-ce que ça vaut la peine de dépenser une fortune en beauté esthétique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre âme soit rachetée? Est-ce que l'homme a évolué à partir d'espèces animales? Est-ce qu'il progresse vers un état supérieur? Devrions-nous avoir hâte que le Seigneur revienne? Est-ce que nos sacrifices et nos pratiques religieuses apportent quelque chose à Dieu? Demeurez à l'écoute. Le grand livre de Dieu va répondre clairement à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à bien comprendre le bon enseignement qu'on va recevoir. Prions. Ô Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. On te demande aujourd'hui de disposer nos cœurs pour qu'on comprenne bien le beau message que tu as pour nous. Et aide-nous à le mettre en pratique à chaque jour. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Le psaume 49 termine le premier segment de la section Exode du livre des psaumes. Nous avons vu que Dieu est juste dans sa manière de traiter les justes et les méchants. Nous avons vu que Dieu veille sur son peuple qui est loin de lui et hors de la terre promise. Il a annoncé qu'il rapprocherait les siens de lui et qu'il veillerait sur eux pendant les jours difficiles des derniers temps, tout comme il a sorti son peuple d'Égypte alors qu'il y était réduit à l'esclavage sous Pharaon. Le psaume 49 souligne le contraste entre la façon que Dieu traite les justes et les méchants. Il ne fait pas que philosopher sur l'incertitude des richesses, la brièveté de la vie. Ce psaume n'est pas un joli petit discours qui nous encourage à supporter les épreuves et la souffrance en nous rappelant que la vertu amène sa propre récompense et qu'éventuellement, justice sera faite. Non seulement est-ce que ce psaume nous démontre l'inutilité des richesses, mais aussi le sort qui attend ceux qui se vantent de leurs richesses. Ce psaume peut sembler révolutionnaire ou dépassé dans notre société matérialiste, mais c'est justement pour cela qu'il faut nous y arrêter. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 49, versets 1 à 5. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Dieu nous invite à l'écouter. Le psalmiste invite le peuple à écouter, et il en fera autant au prochain psaume. Dieu en fait autant au premier chapitre du prophète Isaïe. Dieu a déjà invité son peuple à l'écouter dans le livre de Deutéronome. Lorsque le Seigneur était sur le point de remettre la terre promise à son peuple, il en appela au ciel et à la terre afin qu'il soit témoin du fait qu'il lui donnait le pays, mais aussi des conditions que le peuple devait respecter pour y demeurer. Dieu a dit, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Deutéronome, chapitre 32, verset 1. C'est le début du cantique de Moïse. Les cieux et la terre sont témoins des conditions que Dieu impose à son peuple pour jouir du pays qu'il leur donne. 800 ans plus tard, Dieu sera sur le point d'envoyer son peuple en captivité à cause de ses péchés. Isaïe prit les cieux et la terre comme témoins du fait que Dieu fut juste en châtiant son peuple. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Isaïe chapitre 1, verset 2. Maintenant, Dieu nous appelle à écouter des paroles qui peuvent nous troubler. Il débute par une question, verset 6. « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? » Les injustes s'en tirent-ils? Qui pose cette question? Est-ce le psalmiste? Est-ce un riche imbu de lui-même? Est-ce un juste qui souffre aux mains des méchants? Est-ce des personnes dans le besoin? Je pense que c'est la question d'un homme pauvre. Les pauvres regardent parfois les riches d'un œil soupçonneux. Ils se demandent pourquoi Dieu permet que certains deviennent si riches. Que vont devenir les riches? Pourquoi s'en tirent-ils avec beaucoup et ne semblent-ils pas avoir les mêmes problèmes que les autres? Souvent, ce sont des riches qui se font élire à la tête des partis politiques, et lorsqu'il est temps de se faire élire, ils affirment nous comprendre et nous promettent mer et monde. Pourquoi Dieu permet-il cela? Voyons ensemble ce que dit le psaume 49 à ce sujet. Versets 7 et 8. Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Devant Dieu, nous sommes sur un pied d'égalité. Qu'importe combien riche est une personne, elle ne peut acheter le salut de son âme, ni celui d'une autre personne. Le riche et moi-même devons frapper à la même porte pour obtenir le salut de notre âme. Je n'ai pas d'argent pour acheter le mien. Le riche en a, mais le salut ne s'achète pas. Devant Dieu, nous sommes sur un pied d'égalité. L'homme riche est exclu du plan rédempteur de Dieu s'il pense qu'il peut acheter ou faire quelque chose pour mériter son salut. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains chapitre 4, verset 5. Et que dire de 1 Pierre chapitre 1, verset 17 à 19? Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà le prix du rachat de l'âme pour tous et chacun, le sang de Christ, le sang précieux de Christ. Maintenant, le psalmiste ouvre une petite parenthèse, verset 9. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Personne n'a assez d'argent pour acheter son salut. Verset 10. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Les riches meurent comme tout le monde. Ce psaume a peut-être inspiré la parabole du riche et de Lazare, un homme pauvre, de Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Aucun homme, qu'importe l'immensité de sa richesse, ne peut racheter son âme ou celle d'un autre pour avoir la vie éternelle. Verset 11. Car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Lorsque nous mourons, nous laissons tous nos biens à quelqu'un d'autre. Nous pouvons mettre nos richesses en sécurité et dire « C'est à moi, personne ne peut me l'ôter ». Il se peut que personne ne puisse vous prendre vos richesses, mais il y a une personne qui peut vous éloigner de vos richesses. C'est le Seigneur. Un jour, la mort frappera votre porte et vous serez alors aussi pauvre que les autres. Personne n'a jamais cousu de poche après un linceul. Vous ne pouvez pas acheter votre salut. Un jour, un homme riche était mourant. Des parents, espérant une part de l'héritage, attendaient hors de la chambre. Lorsque l'avocat de la famille sortit de la chambre après le décès de l'homme, on lui demanda « Combien a-t-il laissé ?»«
Il a tout laissé !» répondit l'avocat.
C'était vrai, l'homme riche n'a rien apporté avec lui, il avait tout laissé. Le psalmiste a souligné ce fait, et il laisse à d'autres leurs biens. Mes amis, vous pouvez être riches sur cette terre, mais vous ne pouvez pas acheter votre salut, ni prolonger votre vie sur terre éternellement. Un jour, vous partirez, et vous laisserez votre magot à d'autres. Verset 12. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. De nombreuses personnes essaient d'immortaliser leurs noms. Des édifices et des institutions portent leurs noms. En fait, cela signifie rien. Les édifices vieillissent et sont démolis, s'ils ont échappé à la destruction des guerres. Les institutions ne sont pas éternelles, et elles sont remplacées par d'autres. Nous finissons tous par être oubliés. Verset 13. Mais l'homme qui est en honneur n'a point duré. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Les hommes qui ont des situations élevées, les chefs d'État, meurent comme tout le monde, et un jour on les oublie. Verset 14. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Pause. Voilà une image intéressante. Verset 15. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Pourquoi faire de la beauté votre Dieu? Sheol est le mot hébreu traduit séjour des morts. Littéralement, le texte hébreu dit « La mort est leur berger ». Par contre, David dit « L'Éternel est mon berger ». Le psaume 23, verset 1er. Le Seigneur est aussi la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. La mort est le faux berger. La mort en fait sa pâture. Habituellement, un berger nourrit ses brebis, mais la mort est un berger qui mange ses brebis. Nous pouvons dépenser une fortune en cosmétiques, en chirurgie cosmétique et enrichir les salons de beauté et d'esthéticiennes. Mais une fois mort, il ne reste rien de notre beauté. Elle s'évanouit dans le séjour des morts. Alors, pourquoi en faire votre Dieu? Verset 16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Pause. Le mot pause nous rappelle de méditer sur ce qui vient d'être dit. Seul Dieu peut racheter votre âme. À cet égard, ce ne sont pas vos possessions terrestres qui comptent le plus. Lorsque vous trépassez, Jésus-Christ doit avoir racheté votre âme. Vous devez être un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et cela avant que la mort survienne. Verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Des riches pratiquent le mal et s'en tirent, et malgré cela, certains se font tout de même élire. La situation n'est pas toujours juste pour les pauvres de notre monde contemporain. Je m'attache au Seigneur Jésus, car il jugera les pauvres avec justice. Un jour, justice me sera rendue. Les versets 18 à 21. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'immoralité nous tire vers le bas. Ces versets sont intéressants. La grande majorité des gens croient que l'homme a évolué d'espèce animale. En fait,
La Bible enseigne que Dieu a créé l'homme. Il a créé un homme à son image, et celui-ci pouvait se tenir debout. L'homme s'est rebellé contre Dieu, et il est maintenant un être déchu, et qui peut vivre sans Dieu, tel un animal sur cette terre, et il meurt comme un animal. L'homme n'évolue pas vers un état supérieur, mais il évolue plutôt vers le bas. Il est porté à aller vers le bas, ce que font naturellement toutes les créatures sur cette terre. Tout contredit l'évolution. Rien ne progresse vers un état supérieur par lui-même. Tout se déplace vers le bas. La loi morale de la gravité, qui est l'immoralité, nous tire vers le bas. Cependant, pour les croyants, pour ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus et en la parole de Dieu. Il nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Seuls les chrétiens peuvent avoir les regards vers le haut. » Mes amis, ne soyez pas étonnés si vous voyez des méchants prospérer. Nous passons maintenant au psaume 50, le premier psaume d'Asaph, un musicien et l'un des trois chefs des chantres au temple, les deux autres étant Héman et Éthan. Ce psaume révèle Dieu qui vient juger avec justice son peuple et les méchants. Chers amis, débutons notre lecture, le psaume 50, versets 1 à 3. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Le retour du Seigneur est une perspective qui vous enchante. Les premiers versets de ce psaume annoncent que le Dieu Tout-Puissant arrive. Les enfants de Dieu devraient avoir hâte que ce jour glorieux arrive. Un jour, nous verrons notre Seigneur. C'est une perspective qui enchante les croyants. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas leur foi placée en Jésus-Christ, ce sera la pire des catastrophes. Poursuivons notre lecture, verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Lorsque Dieu se préparera à juger la terre, il convoquera tout le monde. Tous seront au rendez-vous, tous seront témoins et reconnaîtront que ses jugements sont justes. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Tous les croyants ont fait alliance avec Dieu par le seul et unique sacrifice, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui juge. Pause. C'est le Seigneur Jésus qui jugera. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean chapitre 5, verset 22. Revenons au psaume 50, lisons cette fois le verset 7. « Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. » De quoi Dieu pourrait-il avertir son peuple? C'est parce qu'il aura pratiqué sa religion tout en négligeant une relation intime avec Dieu, qui désire des cœurs qui l'aiment. Sans amour pour Dieu, la pratique de la religion est vaine. Laisse-moi te poser une question. As-tu une religion ou une relation avec Dieu? Versets 8 à 10. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Notre vie doit exprimer notre amour envers Dieu. Nos sacrifices et nos pratiques religieuses n'apportent rien à Dieu. Ces choses doivent être l'expression d'un amour sincère pour Dieu et d'un cœur repentant. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Prophète Michée, chapitre 6, versets 6 à 8. Revenons au psaume 50, cette fois lisons les versets 12 et 15. « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu invite son peuple à venir à lui, mais il jugera les méchants. Revenons à notre psaume, 50, versets 17 à 22. « Toi qui es les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu défames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. » Mes amis, Dieu ne parle pas seulement à Israël, mais il nous parle aussi. Il dénonce l'hypocrisie. Le silence de Dieu ne signifie pas une approbation à notre conduite. Nous devrons rendre compte de nos actions un jour. Laissons la lumière de Dieu agir sur notre vie. Écoutez ce texte tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 19. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jésus est venu éclairer tous les hommes, et si nous recevons cette lumière, nous verrons que nous sommes des êtres souillés. Nous avons besoin d'être lavés, purifiés par le sang, par le merveilleux sacrifice de Jésus. Terminons notre lecture du psaume 50, verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Dieu veut des actions de grâce comme sacrifice. Celui qui confesse ses péchés à Dieu sera sauvé. L'Esprit lui révélera la personne de Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour ses péchés et qui lui propose un salut gratuit au moyen de la foi. Et par le fait même, tu pourras lui offrir des sacrifices agréables, comme dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, chers amis, après avoir reçu le sacrifice de Jésus, comme notre bien-aimé Sauveur et Seigneur de notre existence, après que Jésus eut lavé notre cœur de tout péché et qu'il nous ait donné l'assurance d'être son enfant et d'avoir une place au ciel, nos œuvres deviennent des actions de grâce envers ce grand Dieu donateur et généreux. Oui, remercions Dieu par des actions de grâce. Soyons des êtres reconnaissants, débordants de remerciements. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant la parole de Dieu, le psaume 51.
Merci, Régent. Tu as mentionné deux choses qui m'ont particulièrement touché aujourd'hui. Tu as dit que les pauvres regardaient parfois les riches d'un œil soupçonneux, se demandant pourquoi Dieu permet que certains deviennent si riches. Et tu as dit que peu importe à quel point une personne peut être riche, elle ne peut pas acheter le salut de son âme, ni celui d'une autre personne, puisque le salut ne s'achète pas. Je vois tellement la justice de Dieu dans cet enseignement. Peu importe qui nous sommes, riches ou pauvres, Dieu nous a donné le même moyen pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Mes amis, ce matin, j'étais dans ma voiture, et même si ça fait environ 28 ans que je suis sauvé, mon cœur s'est soudain rempli d'un débordement de reconnaissance envers mon Dieu, de m'avoir fait comprendre son plan pour que je sois sauvé. Et ce n'est pas parce que je suis plus intelligente qu'une autre personne, ni plus riche qu'une autre personne. Le plan de Dieu n'est pas compliqué, et ça coûte rien pour être sauvé. Ça a coûté quelque chose à Dieu, mais nous, ça ne nous coûte rien. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, des versets 9 à 13, il est écrit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mon ami, crois-tu au nom du Fils de Dieu? Crois-tu en Jésus? As-tu confiance en lui seul pour avoir la vie éternelle? Il est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » As-tu remarqué qu'il n'a pas dit de croire en Jésus et de faire toutes sortes de bonnes œuvres pour être sauvé? Il a simplement dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Si tu essaies de te sauver par toi-même, même si tu crois à l'existence du Seigneur Jésus, tu vas manquer le bateau. Dans son épître aux Éphésiens, au deuxième chapitre, au verset 8 et 9, Paul dit ceci. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, mon ami, cesse d'essayer de mériter ton ciel. Tes efforts sont vains. Reconnais plutôt que tu es un pécheur perdu qui ne mérite pas d'aller au ciel. Dans le troisième chapitre de son épître aux Romains, au verset 23, Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, au verset 24, c'est qu'on est gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon ami, crois au Seigneur Jésus. N'attends pas demain, demande-lui aujourd'hui de te sauver. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et reçois Jésus comme sauveur. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.